Bonsoir. Province du Sud, qui vous, les communautés impliquées dans les conflits dans les hauts plateaux d'Ouvira ont résolu de cesser les hostilités. Ils ont convenu de participer au dialogue qui sera organisé à ce sujet par le gouvernement de la RDC. C'est ce qui ressort de la conférence pour la paix dans le Sud Kivu qui s'est tenue vendredi dernier à Kinshasa. De son côté, la communauté Banyamulenge dit qu'elle ne participera pas à un seul dialogue tant que les tueries dans les plateaux de Minembwe vont se poursuivre. C'est ce qu'a déclaré Moïse Nyarugabo, député national et notable de Minembwe. Comment analyser cette situation et que faire pour faciliter la cohabitation pacifique des communautés? C'est le débat de ce soir. Et dans cette émission, nous recevons Théo Ngwabije Kai, le gouverneur de la province du Sud Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Théo Ngwabije Kai.
Bonsoir, monsieur le journaliste Ngwabije Kasi Kai.
Merci pour... Ok. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Bukavu. Bonsoir, monsieur Karna Soro.
Bonsoir.
Et Juvenal Toaibou, coordonnateur de l'ONG Centre indépendant de recherche et d'études stratégiques au Kivu. Bonsoir, monsieur Juvenal Toaibou. Apparemment, il n'est pas encore là. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les communautés impliquées dans les conflits dans les hauts plateaux d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, parmi lesquelles les Babembe, les Bafoliro, les Banyamulenge, les Bavira, ont résolu de cesser les hostilités. Ils ont tous convenu de participer au dialogue qui sera organisé à ce sujet par le gouvernement de la RDC. C'est ce qui ressort de la conférence pour la paix dans le Sud Kivu qui s'est tenue vendredi dernier à Kinshasa. Norbert Basengezi, porte-parole des notables du Sud Kivu, l'a déclaré à la presse au sortir de ses assises. On écoute Norbert Basengezi.
Nous avons résolu la cessation des hostilités. Nous avons également résolu que nous puissions organiser ces dialogues sous la couverture du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi une interaction entre les communautés à la base pour que l'on sache ce qui nous divise, ce qui nous unit et privilégier ce qui nous unit. Nous sommes très contents d'avoir atteint notre objectif parce que tous ont promis qu'ils vont parler aux groupes armés. Ils vont cesser même de coopérer avec les groupes étrangers pour que règne la paix chez nous, déposer les armes et les mêmes groupes armés vont assister à nos réunions qui auront lieu prochainement à Ouvira sous la houlette du gouvernement central.
La communauté Banyamulenge ne participera pas à un seul dialogue tant que les tueries dans les plateaux de Minembwe vont se poursuivre. Elle demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour rétablir la paix et la sécurité dans les hauts plateaux de Minembwe. Elle appelle également la MONUSCO de continuer à jouer son rôle de sécuriser les populations civiles telles qu'elle stipule dans son mandat. Moïse Nyarugabo, député national, l'un des notables de Minembwe, l'a dit ce samedi à Kinshasa au cours d'un point de presse. On écoute Moïse Nyarugabo.
La communauté Banyamulenge demande à l'État d'arrêter les massacres et le déracinement ainsi que les assassinats ciblés contre les Banyamulenge dans la contrée, de la protéger et de protéger toute la population des hauts plateaux et d'imposer la paix, de traquer et éradiquer tous les groupes armés étrangers et locaux, de déférer en justice tous les militaires qui ont trahi leur serment en collaborant avec les Maïmaï et les officiers qui ont refusé aux militaires l'ordre de défendre et de protéger la population civile. La communauté Banyamulenge demande au chef de l'État de s'impliquer davantage pour protéger la communauté en détresse. Elle demande à la MONUSCO de jouer son rôle, de protéger les civils, ce qui fait partie de son mandat. La communauté Banyamulenge annonce qu'elle ne prendra plus part à un quelconque dialogue tant que ces actes de génocide ne seront pas arrêtés.
Merci à Paul Matendo qui a réalisé ces dossiers. Théo Ngwabije Kasi, gouverneur de la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les plateaux dans les hauts plateaux de Minembwe depuis quelques mois?
Oui, monsieur le journaliste, nous avons un conflit armé une crise humanitaire sévère dans le plateau, dans les hauts plateaux, et précisément dans les territoires de Fizi, où nous avons un activisme des groupes armés, locaux et étrangers, qui sèment la désolation avec les tueries, les incendies, les situations quasiment presque de guerre contre nos forces de défense et de sécurité. Et depuis tous ces temps, le gouvernement central, bien sûr avec l'appui du gouvernement provincial, nous efforçons à résoudre cette crise et à anéantir ces forces négatives contre nos populations. C'est une situation difficile qui fait qu'aujourd'hui, l'armée est en train de repousser sous ses forces, de repousser ces groupes armés locaux et tout faire pour rétablir la paix dans les territoires de Fizi, mais aussi dans les territoires d'Ouvira et dans les territoires de Mwenga. Malheureusement, ça occasionne une crise humanitaire, déplacement de population, incendie de maisons, pillage. C'est une situation qui est difficile, mais qui aujourd'hui va être résolue grâce à la détermination de nos forces de défense et de sécurité.
Voilà, vous dites que l'armée est en train de repousser ces groupes armés, mais que répondez-vous à cette opinion qui pense que les FARDC ne font pas assez pour rétablir l'ordre dans cette entité?
Bon, moi, je pense que ceux qui tiennent de tels propos, c'est irresponsable. Nous voyons nos forces de défense et de sécurité se mobiliser jour et nuit pour anéantir ces forces négatives. Mais vous connaissez que c'est une situation qui est complexe et aussi l'étendue aussi des territoires. Je ne peux pas dire que nos forces de défense et de sécurité ne font rien. Ça, c'est totalement irresponsable. Il y a une situation, des groupes armés qui sont là depuis des années, puis des groupes armés étrangers, burundais et rwandais. Il faut faire face à ces forces négatives. Ça demande du temps, mais moi, j'ai sali la détermination de nos forces des FARDC et toutes les forces de sécurité pour anéantir ces forces négatives. Donc l'armée fait son travail. Évidemment, on n'a pas encore les résultats puisque il faut éradiquer ces forces négatives. C'est le travail que fait l'armée pour le moment. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si vous citez Minembwe, qui est encore terni par les forces armées de la République démocratique du Congo, ça montre qu'il y a un travail. Donc s'il n'y avait pas un travail des forces de défense et de sécurité, toutes ces parties-là seraient prises aujourd'hui par les forces négatives, donc les groupes armés locaux et surtout les groupes armés étrangers.
Monsieur le gouverneur, vous avez suivi au début de cette émission les deux interviews qui ont été réalisées par Paul Matendo, l'interview de Monsieur Norbert Kantitima et de Monsieur Moïse Nyarugabo. Il est dit que les différentes communautés ont résolu de cesser les hostilités afin de participer au dialogue qui sera organisé par le gouvernement de la RDC. Mais les Banyamulenge refuse de participer à tout dialogue sous longtemps qu'il y aura des tueries. Et comment vous réagissez à cette condition posée par les Banyamulenge?
Bon, moi j'étais d'abord à souligner que nous d'abord, depuis notre élection il y a 5 mois, nous nous sommes fixés comme objectif la sécurité comme la priorité des priorités, puisque au Sud Kivu, tout comme sur l'ensemble des parties de l'Est, on ne peut pas entreprendre quoi que ce soit s'il n'y a pas retour de la paix. Donc, qu'il y ait des réunions qui se tiennent à Kinshasa ou ailleurs, nous pouvons que nous en féliciter, et qu'il y ait aussi des dialogues de part et d'autre. Mais je tiens à souligner qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire aujourd'hui entre les communautés. C'est plutôt l'activisme des groupes armés. Aujourd'hui, je crois que l'essentiel qui doit être fait aujourd'hui, les leaders et toutes les communautés, c'est de sensibiliser toutes les jeunes, toutes les personnes qui sont impliquées dans les groupes armés, de cesser leurs activités et de revenir au chemin de la paix. C'est le travail que nous avons entamé. D'ailleurs, dès notre élection, je crois, à Ouvira, nous avons fait un dialogue avec toutes les communautés et nous avons constaté que ces personnes vivent ensemble. Donc, les Bafulero, les Bavira, les Banyindou, les Banyamulenge, les Babembe, ils ont toujours vécu ensemble. Et d'ailleurs, l'exemple de Minembwe est là. Vous trouvez toutes ces communautés et d'autres communautés, les Bashi par exemple, ils ont toujours vécu ensemble. Mais évidemment, il y a malheureusement l'activisme des groupes armés qui viennent troubler cette paix. Et c'est ce qu'il faut combattre. S'il y a des réunions à faire, c'est plutôt dans la sensibilisation aujourd'hui pour expliquer aux gens de quitter, d'abandonner les armes, puisque les Sud-Kivu a besoin de la paix. Voilà le vrai message qu'il faut porter. Bon, que les uns disent qu'ils ne vont pas participer, je crois qu'il faut toujours, convaincre tout le monde que savoir que la paix, c'est un processus, et que pour avoir la paix, il faut l'effort de tout le monde. Mais moi, j'ai dit, c'est plutôt la sensibilisation pour que nous puissions demander aux gens de quitter les groupes armés et de revenir vers le chemin de la paix. Et ceux qui ne vont pas le faire, l'armée, les forces de défense et de sécurité et surtout les gouvernements devra restaurer l'autorité de l'État. Voilà la vraie solution.
Monsieur le gouverneur,
voilà, c'est ce que je peux réagir.
Voilà, vous soutenez cette solution qui consiste à pacifier, n'est-ce pas, cette partie du pays par le dialogue. On sait que plusieurs fois les dialogues entre ces communautés a été utilisé, mais on n'est jamais parvenu à pacifier cette partie du pays. Est-ce que, c'est ça la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que les différentes communautés se parlent honnêtement? Est-ce qu'elles se parlent sincèrement? Est-ce qu'on pose des vrais problèmes?
Oui, moi, c'est ce que je vous dis, monsieur le journaliste. J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit d'abord qu'il n'y a pas de conflit interethnique au Sud-Kivu. Puisque entre les communautés, entre les populations, il n'y a pas de problème. Mais il y a plutôt, je pense, quelques manipulateurs, quelques tireurs de ficelles qu'il faut décourager. Et aujourd'hui, je le dis, la vraie solution, c'est sensibiliser les gens qui détiennent les armes, c'est-à-dire les personnes qui peuvent avoir de l'influence sur les jeunes ou certains groupes armés. C'est là où il faut insister pour que ces personnes déposent les armes, les sensibiliser. Et évidemment, s'ils ne veulent pas être sensibilisés, s'ils ne veulent pas rejoindre les processus de paix, l'armée doit prendre ses responsabilités pour désarmer et démobiliser et prévoir un processus de réinsertion de ceux qui seront prêts pour rentrer dans la vie civile.
C'est monsieur ça le gouverneur, voilà. Vous affirmez qu'il n'y a pas de conflit entre les communautés, mais vous n'allez pas nier que chaque communauté a aussi son groupe armé, n'est-ce pas?
Je reconnais qu'effectivement, les gens sont tombés dans cette fausse manipulation de faire croire aux gens que voilà, telle force, tel groupe va défendre telle communauté. Ça, je le reconnais. Donc, il y a certains groupes armés qui s'identifient à des communautés. Voilà, ça, c'est une réalité. Ça, je le reconnais.
Merci.
Et je crois, voilà, la solution, comme je l'ai dit, c'est plutôt l'éradication de ces groupes armés locaux. Et aussi les groupes armés étrangers. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que les Sud-Kivu connaissent des problèmes, puisque les Burundais et les Rwandais veulent transporter leurs problèmes chez nous.
Merci, monsieur le gouverneur.
Il faut une approche régionale pour anéantir ces forces étrangères qui rentrent chez eux. Et s'ils rentrent chez eux, nous pourrons envisager la paix. Voilà.
Merci, monsieur le gouverneur. Nous allons vraiment donner la parole. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Bukavu, comment vous analysez cette situation qui prévaut actuellement dans les plateaux de Minembwe et depuis plusieurs mois?
Merci. D'abord, je voudrais quand même, je crois, la représentante quand même féliciter cette initiative de dialogue. Le dialogue est toujours important. Et comme dirait quelqu'un, le dialogue, c'est l'arme des femmes et des hommes forts. On a toujours besoin de dialoguer, on a toujours besoin de se parler, on a toujours besoin de se comprendre. Pour les acteurs extérieurs, le dialogue permet aussi de comprendre les postures, de comprendre les positions, de comprendre aussi les inquiétudes des uns et des autres. Donc le dialogue est important et je pense que c'est à nouveau une autre étape qui a été franchie. Le gouverneur a mentionné tout à l'heure le dialogue qui a été engagé dès son arrivée comme gouverneur. Je profite pour mentionner cela. Il est quand même resté à Uvira pendant 5 jours pour modérer ce dialogue-là directement entre les différentes communautés. Donc ce dialogue est très 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 important. Cela dit, tout à l'heure vous avez parlé des groupes gaz armés qui se réclament des communautés. Je pense qu'il y a un problème de sémantique qu'il faut corriger. On entend souvent dire chaque communauté a son groupe armé. Je ne pense pas que chaque communauté a son groupe armé. Il y a des groupes armés qui se réclament des communautés. Sinon, si nous prenons les Bafuliro, nous n'aurions pas eu Caracara, Molière, Nyerere, tous ces gens-là qui se réclament de défendre leur communauté. Nous n'aurions pas eu, du côté d'autres communautés aussi, beaucoup d'autres groupes armés qui se réclament de défendre ces communautés-là. Donc, je pense qu'il y a ici un élément de sémantique dont se servent un certain nombre de personnes pour distraire un peu tout le monde, mais ces groupes armés, je ne pense pas qu'ils aient été créés par ces communautés, mais c'est plutôt des individus qui ont créé ces groupes armés et pour légitimer leur existence se réclament de ces communautés-là. Donc je pense que ça c'est très important d'abord à clarifier. Maintenant la situation sur le terrain. Les tensions, je pense que les tensions existent partout. Les tensions existent partout. La grande question, c'est de savoir à quel moment ces tensions-là vont dégénérer et créer une situation à la fois de violence et de souffrance humaine qu'on connaît comme ce qu'on voit dans les hauts plateaux. Et c'est à cela qu'il faut s'intéresser de plein. Il me semble que là aussi, c'est parce que les instruments de la violence existent sur place. C'est parce qu'il y a une prolifération massive des armes dans ces endroits-là. C'est parce que dans ces endroits, il y a ces groupes armés qui se sont constitués au fur et à mesure de ces années. Aujourd'hui, on en dénombre quasiment une trentaine. Et toutes ces personnes qui estiment que, les fins légitiment les moyens. Ce qui est totalement faux, parce que ça va entraîner des souffrances humaines comme celles qu'on connaît sur place, dans les hauts plateaux, avec tous ces déplacements massifs de population, ces villages qui sont brûlés, avec l'ensemble des moyens de survie, des populations qui sont détruites, y compris, je rappelle, les écoles et les centres de santé, pour vous montrer jusqu'où ces personnes-là sont capables d'aller dans leur volonté de destruction. Donc voilà un peu le tableau brossé de la situation dans les hauts plateaux.
Monsieur Karnasoro, vous avez suivi le gouverneur du Sud Kivu, M. Ngwabije, qui affirme qu'il n'existe pas de conflits entre les communautés à Minembwe. Est-ce que vous confirmez ces propos du gouverneur Ngwabije?
Je crois tout à l'heure avoir clarifié que nous avons des individus qui se réclament des communautés. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu une communauté qui soit venue officiellement nous dire « Oui, nous reconnaissons tel groupe et nous savons que telle personne, c'est nous qui l'avons mise en mission. » À ma connaissance, nous avons eu tous les dialogues, nous approchons au quotidien les leaders de communautés. Encore hier, j'étais dans la zone en train de rencontrer les leaders des communautés. Pas à une seule minute, quelqu'un m'a dit « C'est nous qui avons mis un tel ou un tel en mission. » Je vous ai rappelé tout à l'heure le nombre de groupes armés qu'il y a. Et cela, vous pouvez l'affecter à chaque groupe armé, à chaque groupe ethnique, à chaque communauté ethnique dans les hauts plateaux. Vous avez quasiment 5 à 10 groupes armés qui se réclament de ces communautés. Donc, en tant que tel, ça vous montre cette fragmentation, vous montre en fait que ces groupes ne sont pas, si vous voulez, un peu des mandatés de ces communautés-là. Mais c'est plutôt, encore une fois, j'insiste, des individus qui créent ces groupes-là et qui, pour légitimer leur existence, vont se rattacher à une cause communautaire.
Voilà, mais cela ne voudrait pas dire que entre les communautés, il n'y a pas de conflit.
Mais naturellement, entre toutes les communautés au monde, il y a des mésententes, il y a des questions de perception, il y a des mésententes. Mais ça ne passe pas une certaine ligne rouge. Il faut qu'il y ait une exploitation, une instrumentalisation pour qu'on dépasse cette ligne rouge. Et c'est ce à quoi on assiste là-bas.
Alors, comment vous expliquez que ces groupes armés semblent s'imposer dans cette partie de la province en dépit de la présence des FARDC et de la présence de la MONUSCO aussi?
Je ne pense pas qu'ils s'imposent. Je pense qu'ils sont en train de semer la terreur, mais cela ne veut pas dire qu'ils s'imposent. Les opérations qui sont menées, il ne s'agit pas d'aller mitrailler tous azimuts les forêts ou les savanes et se dire qu'on en a fini avec ce problème-là. Nous procédons étape par étape. Je pense que ce qui se passe actuellement est très important. Il y a des dynamiques de dialogue. C'est vrai qu'on sent aussi quelque part un certain ras-le-bol, ce qui est tout à fait légitime et logique pour certaines communautés qui, à un moment donné, estiment qu'il faut passer à un autre type d'action. Mais ce type d'action est en cours. Mais ici aussi, je voudrais souligner la complexité ici de ces groupes armés. Ce sont des groupes armés qui opèrent avec des modus operandi qu'on connaît, qui arrivent rapidement, volent le bétail, violent, tuent rapidement, courent, rentrent dans la forêt. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins plus d'une vingtaine de groupes armés qui opèrent simultanément sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez tout un nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de la neutralisation
Merci.
De ces groupes armés-là, qui n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça, du bout des doigts.
Merci.
Mais je puis vous rassurer que le travail est en train d'être fait pour nous assurer, ensemble, en tout cas sous l'autorité de la représentante spéciale, que nous appuyons les autorités, que nous appuyons les FRDC pour que cela cesse.
Merci. Monsieur Juvenal Toaibou, coordonnateur de l'ONG, Centre indépendant de recherche et d'études stratégiques au Kivu. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà. Quelle est votre lecture
Le gouvernement et Pamato. Bonsoir.
Oui, monsieur Juvenal Toaibou, quelle est votre lecture de la situation d'insécurité qui se vit actuellement à Minembwe?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de répondre aux offertes. Donc, moi, ma lecture s'articule à trois niveaux. Au premier niveau, il faut d'abord revenir sur l'historique des escalades connues dans la zone. En deuxième lieu, il faut parler de la capacité de la puissance publique, de l'État, pour éradiquer les phénomènes de prolifération des groupes armés dans la zone et des armes qui circulent dans les établissements illégaux. Et en troisième niveau, il faut parler des combien de dialogues qu'on a eu à réunir ou bien à tenir, mais quels en sont les résultats? Voilà un peu mon interrogation. S'il faut parler à premier lieu, les escalades qu'on a eues de guerre 96-98, dont les conséquences sont en train d'être subies par la population aujourd'hui dans la zone. Mais il faut rentrer. À chaque fois qu'il y a des processus de dialogue, ou bien pour former les gouvernements d'union nationale, des négociations ou quoi que ce soit, il y a des crises dans la zone. S'il faut rentrer, et donc Kodjo était à Kinshasa pour réunir les politiciens et parler du dialogue afin de créer un gouvernement d'union nationale. Bijombo était mis à fait. Voilà. De deux, il y a eu le dialogue de la Saint-Sylvestre. Minembwe était en fait. De trois, aujourd'hui, pour former le gouvernement Ilunga Ilunkamba, c'est les conséquences qu'on subit avec l'élément déclencheur de Kanihura jusqu'à Bijombo aujourd'hui. Là, en parlant de ce premier point, je vais rentrer un peu à l'intervention du gouverneur.
Monsieur Juvenal Toaibou.
Oui.
Lorsque vous évoquez l'aspect historique en affirmant que chaque fois qu'il y a des événements politiques importants, il y a toujours des problèmes dans cette partie du pays. Nous savons que le gouvernement Ilunga Ilunkamba a été formé et le gouvernement est en train de travailler. Quel est aujourd'hui l'événement politique qui peut justifier, n'est-ce pas, que les gens puissent prendre les armes et puissent s'entretuer aujourd'hui à Minembwe?
Voilà, merci beaucoup, c'est la question. L'événement le plus important politiquement parlant, c'est la création, l'érection de certaines entités en ville et commune. Ensuite, on te diffuse la ville de Baraka et la commune rurale de Minembwe, seulement sont des entités érigées en tant que telles décentralisées et très décentralisées. Alors qu'il y a Suima, qui devrait aussi être commune rurale. Il y a Lulima et Misisi, qui devrait aussi être des communes rurales. Il y a Fusi Centre, qui devrait être aussi une commune rurale. Voilà un peu le nœud de la cause de l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui des conséquences humanitaires et des crises qu'on connaît dans les hauteurs de Minembwe. Donc, si vous parlez avec toutes les communautés possibles dans la zone, ils disent que pourquoi seulement Minembwe était érigé en commune rurale et d'autres communes. Ce sont les jargons de discours qui circule dans les bouches d'autres communautés non banyamulenge. Vous comprenez un peu la
situation. Je vais dans le Toaïbou.
C'est un élément que... Oui, allô?
Oui, il y a des initiatives, hein, nous avons suivi, il y a des initiatives qui sont prises par certains notables, n'est-ce pas, de Sud-Kivu pour solutionner pacifiquement ces problèmes, et ce qui est une bonne chose, ça a été salué par tout le monde, mais les Banyamulenge exigent qu'un préalable soit accompli, celui de la cessation des hostilités, celui de la cessation des tueries. N'est-ce pas légitime cette demande des Banyamulenge?
C'est une opinion, mais qu'est-ce qui peut amener que les crises cessent? C'est ça la question qu'il faut poser au Banyamulenge. Parce que pourquoi? L'armée a la telle mission de restaurer le l'état dans la zone. L'armée était là. Même vous avez connu, chaque communauté tire la couverture de son côté. Quand on amène un commandant ou bien une unité, l'autre communauté qui n'est pas de l'obédience dit que celui-ci conjugue ou bien collabore avec l'autre groupe armé antagoniste. Vous avez connu vous-même comment est-ce qu'Honoré Tatiana était parti là-bas. Il est parti vraiment sans préavis. Parce qu'il était indexé par les Banyamulenge et qu'il collaborerait avec les Maïmaï pour agresser. Vous avez compris vous-même comment est-ce que le colonel David qui est là et le général Tony, tous qui sont là, mais ils sont en train de préactiver. Mais au départ, le colonel Zahir était à terre là-bas dans la zone pour utiliser l'opération et d'autres, de 7e régiment. Mais d'autres communautés se l'activaient en tant que tel qu'ils coopéreraient avec les Banyamulenge ou bien qu'ils conjugueraient avec les Banyamulenge pour harceler ou bien attaquer d'autres communautés.
Monsieur Gilbenal.
Les accusations, oui.
Oui, nous avons suivi, on a même rappelé qu'il y a eu beaucoup de dialogues qui ont été organisés, mais ces dialogues n'ont jamais abouti à la pacification de cette partie du pays. Et à votre avis, quelle devrait être la particularité, n'est-ce pas, des dialogues qui est prévu, qui est envisagé par le gouvernement, pour que cette fois-ci la paix puisse être rétablie de façon durable dans cette partie du pays?
Une très bonne question, monsieur le journaliste. Du fait que, depuis que les dialogues ont commencé pour réunir ou bien mettre ensemble les communautés, il n'y a qu'une seule base de données, des listes de gens sur lesquels les acteurs se fondent. Depuis 2004, la même liste qui est utilisée, Institut JFP, Life, Institute, c'est la même liste que des gens, des acteurs pour la paix, reviennent sur les mêmes personnalités. Voilà que s'il y a des personnalités sur lesquelles les erreurs étaient commises au départ, et voilà la conséquence de la suite de quoi. Donc il faut quand même redynamiser et revoir les acteurs à impliquer dans le dialogue là. Si, et c'est les massifs, ils sont voués au changement. Un autre élément, plusieurs projets de fonds de cohérence en termes de Starek ont été mis du pied ici, implémentés pour la question des hauts plateaux et de la plaine de la ville, de la zone frontière et autres du Tombou. Mais toujours, je vois les mêmes gens défiler. Et les mêmes discours reviennent toujours. Nous sommes tels, nous sommes venus de ceci, nous sommes ceci. On nous a donné ça, on nous a dit Tombou, Minembou, Tombou. Donc les mêmes gens viennent avec les mêmes réponses.
Merci. Merci, monsieur Juvenal. Nous allons vous redonner la parole dans la deuxième partie de l'émission. Monsieur le gouverneur de Teongwabije Kassi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
Abamungu Balibuza de Bukavu. L'histoire nous renseigne que dans cette région du pays, c'est la guerre la plus meurtrière du Congo, soutenue par l'une des communautés en conflit. Quand l'État institutionnalise l'impunité, manifeste des signes de faiblesse en ne jouant pas véritablement son rôle, régnant certaines communautés là où il agit avec rigueur face à d'autres, il laisse sans livre à quiconque voudrait s'armer pour imposer sa loi. Et ce qui se passe au Kivu est le fruit de manipulation de certains hommes politiques qui agissent de l'impunité dans le passé ou profitant de la faiblesse des institutions du pays.
Monsieur le gouverneur Théo Ngwabije.
Oui, monsieur le journaliste, je partage tout à fait l'analyse de ce commissaire. Il a bien souligné qu'il y a un problème d'impunité. Et je crois aujourd'hui, avec l'alternance au sommet du pays, le président de la République a souligné que l'État doit être exemplaire. Ça veut dire aujourd'hui, il faut absolument, comme nous l'avons dit dans ces conflits, que les coupables, ceux qui ne veulent pas rejoindre le chemin de la paix, qu'ils puissent être sanctionnés. Il n'y a pas que ceux qui sont sur le terrain. Mais c'est là aussi qui tire les ficelles. Si on arrive à les dénicher, il faut qu'ils soient déférés devant la justice et qu'ils soient punis. Ce n'est que la justice qui élève une nation. Donc, je crois la préoccupation de cet auditeur, de ce monsieur, est tout à fait fondée. Il faut qu'on mette fin à l'impunité. Et si nous mettons fin à l'impunité, les gens vont comprendre que l'État existe et que l'État doit être restauré, non seulement dans les hauts plateaux, mais sur l'ensemble de notre province. C'est ça notre combat aussi.
Voilà, vous dites que l'État doit être restauré. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Qui contrôle aujourd'hui les hauts plateaux?
L'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit être restaurée. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut à Minembo et ailleurs, on ne peut que se confier auprès de l'État. Et l'État doit rassurer tout le monde. Et l'État ne peut rassurer tout le monde que si la force revient aux forces de défense et de sécurité. De traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà, je crois que ce sera la solution. Donc, si on restaure l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province, particulièrement dans cette partie de la province qui est touchée, je crois que les populations vont vivre et vont retrouver la paix.
Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il y a des entités dans les hauts plateaux qui sont aujourd'hui, qui échappent au contrôle du gouvernement congolais, qui seraient, n'est-ce pas, entre les mains des Maïmaï, notamment les Maïmaï à Koutoumba?
Non, je pense il y a quelques poches. Vous savez, dans les hauts plateaux, c'est des, comme je vous dis, si nous avons affaire à trois territoires, et même si nous retournons vers le nord, vers Calais, nous avons quelques poches d'insécurité qui échappent effectivement à l'autorité de l'État. Mais l'ensemble de la province aujourd'hui est sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité, mais nous avons plusieurs poches d'insécurité.
Voilà, la deuxième question de l'émission, c'est que faire pour faciliter la cohabitation pacifique des communautés? Et vous avez estimé qu'il n'y a pas de problème entre les communautés, mais à votre avis, c'est quoi la solution aujourd'hui convenable pour rétablir la paix dans cette partie du pays?
Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas de conflit entre les communautés puisqu'ils ont toujours vécu ensemble, mais il y a quand même, je crois que le chef du bureau de la MONUSCO l'a bien dit, il y a quelques manipulateurs. Il y a aussi quelques personnes qui s'identifient, qui veulent s'approprier les rôles, qui veulent se donner le rôle, dire que nous représentons telle ou telle communauté. C'est important aujourd'hui de prêcher la cohabitation pacifique entre nos populations et que là où il y a rupture de confiance, que cette confiance revienne. On peut échanger, on peut parler. Et pour que finalement, que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, que nous sommes les enfants d'ici Kivu et que nous devons vivre ensemble. C'est ce que je ne cesse de répéter chaque jour depuis mon élection, que la cohabitation pacifique est la clé pour la paix dans notre province. Et bien sûr, que l'État aussi joue son rôle, particulièrement notre armée. Et je crois que c'est un travail qui est fait et qui va se poursuivre. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a insisté pour que la paix revienne aussi Kivu. Et je crois que toutes les mesures sont prises aujourd'hui pour que la paix revienne. Il y a aussi l'accompagnement, ça je dois le souligner, de la MONUSCO, qui est là et qui accompagne nos forces. Je crois que la solution, c'est vivre ensemble, prêcher le vivre ensemble, que là où il y a eu des problèmes, qu'il y ait quand même des solutions, qu'on puisse s'entendre, s'il y a des conflits, qu'on puisse les résoudre. S'il y a quelques petits problèmes, on peut les résoudre. Mais on a toujours vécu ensemble et aujourd'hui, je crois que la fracture n'est pas encore totale entre nos populations et n'ont pas de problème. Mais il y a quelques manipulateurs et quelques tireurs de ficelles qu'il faut absolument couper.
Merci, M. Karna Soro. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Idjoui au sud de Kivu.
Oui, je suis à Konkomagajou à partir de la province du sud de Kivu dans le territoire d'Idjoui. À mon avis, ce conflit qui sera entretenu dans la partie du sud de Kivu serait entretenu, occasionné par certains fils du territoire qui vivent à Kinshasa. Ils sont des tireurs de ficelles qui veulent protéger leurs intérêts. Et à mon avis, j'ai donné comme piste des solutions. Il faut identifier tous ces politiciens qui occasionnent ces conflits pour qu'ils répondent de leurs actes. Parce que nous, à l'EDC, nous avons besoin de la paix. Nous ne voulons plus la guerre. Et ensuite, comme piste des solutions, il faudrait changer tous les éléments de l'ordre qui se trouvent de l'autre côté de la province de Sud-Kivu. Parce que et certains fils des milliers savent ce qui se passe. Si on pouvait changer ces éléments qui sont là-bas de l'ordre pour les renvoyer dans une autre province, je crois à mon humble avis qu'on pouvait trouver quand même une solution, une paix durable dans cette partie de la province. Merci.
Monsieur Karnassoro, votre réaction?
Très bien. Je pense qu'en ce qui nous concerne, ce qui est important de retenir ici, c'est que il faut enlever ce qui se trouve au bout de ces ficelles. Il me semble que nous avons une situation où nous savons très bien ce que nous appelons les instruments qu'utilisent, que pourraient éventuellement utiliser des personnes mal intentionnées. Mais cela peut se faire essentiellement à travers quatre axes, c'est-à-dire un renforcement effectif de la présence de l'État à travers l'effectivité de ses services. En général, quand on parle des services de l'État, on parle seulement des FRDC, des PNV. Non, il y a aussi les ministères de l'Agriculture, il y a le ministère des Infrastructures, il y a le ministère de l'Éducation. Il faut s'assurer que tous ces services sont effectifs dans ces endroits-là. Ensuite, il faut aussi appuyer la lutte contre l'impunité. Il y a déjà un travail qui se fait de ce point de vue. Je tiens à rappeler quand même que sur le Sud Kivu, nous avons au moins plus d'une dizaine de colonels dans les prisons, sans compter la centaine de soldats qui sont chaque jour devant les audiences foraines. Il y a encore un mois de cela, nous avions une audience foraine qui avait lieu à Kinembwe. Et je rappelle le procès qui est en cours, c'est le procès de Coco Di Coco, qui est très connu comme ancien milicien, et qui est en ce moment devant la Cour. Donc il faut renforcer ce travail qui est effectué par l'État, la République démocratique du Congo en ce moment. Et à côté de tout ça, maintenant, il faut mettre en place un processus crédible de DDR qui permette d'offrir des alternatives à ces personnes qui sont manipulées par ces tireurs de ficelles. Nous restons persuadés que ces personnes ne sont pas vouées, encore moins maudites, et prescrites à prendre des armes ou à tuer des semblables. Si une proposition leur est faite d'alternative, en ce moment, la représentante spéciale nous a instruit de travailler avec le gouverneur du Sud Kivu pour nous assurer qu'il y ait un processus effectif et vraiment durable de DDR en place. Nous espérons que la mise en œuvre de ces trois segments permettra donc de couper ce que je peux appeler un peu l'objet qui se trouve au bout de ces ficelles qui sont tirées par certaines personnes ici et là.
Monsieur Karnassoro, et qu'est-ce qui est fait par la MONUSCO dans le cadre, n'est-ce pas, de son mandat relatif à la protection des populations civiles?
Très bien. Dans le cadre du mandat de la MONUSCO, spécifiquement sur ce qui se passe sur les hauts plateaux, je rappelle que nous sommes quelque part depuis le mois de janvier à ce que je peux appeler la deuxième phase un peu des violences dans les hauts plateaux. La MONUSCO a toujours été là pour appuyer les FRDC, pour nous assurer qu'il y a une dissuasion et que ces violences-là ne vont pas au-delà de ces souffrances qu'elles ont causées à ce jour-là. Nous avons toujours été là pour appuyer les FRDC, comme au mois de mai, le déploiement rapide de plus d'une centaine de soldats des FRDC par hélico. Nous avons été là aussi pour appuyer les FRDC chaque fois que nécessaire avec le déploiement des hélicos d'attaque. À titre d'exemple, il y a encore de cela une semaine, lorsque il y a eu cette offensive des groupes armés sur un certain nombre de villages dans les environs, dans le sud de Mikenge, la MONUSCO a déployé ses hélicos d'attaque en appui au FRDC qui a permis, en l'espace de moins de 24 heures, de créer, si vous voulez un peu, d'amener ces personnes-là à entamer
Merci.
Un repli vers la forêt.
Merci.
Donc voilà donc les éléments concrets que nous avons faits en ce moment et nous avons des déploiements à Mikenge, à Mukera qui nous permettent de protéger des personnes déplacées. En ce moment, nous avons plus de 1000 personnes à Mukenge qui sont donc en train d'être protégées par les soldats.
Merci, M. Karnassoro. Merci. Monsieur Juvenal Twaibou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient une fois de plus de Bukavu, Sud Kivu.
Docteur Mahomet de Bukavu au Sud Kivu. Je pense que ce ne serait pas encore mauvais d'organiser une énième conférence pour la paix, un énième dialogue par rapport aux hostilités, aux conflits qui se déroulent entre les communautés de Haut Plateau d'Uvira et de Fizi, plus précisément de Minembwe. Y participer serait souhaitable étant donné que la politique de la caisse vide n'est jamais payante. Mais il serait mieux que cette fois-ci, il puisse sortir de ce dialogue une solution efficace et efficiente à cette situation. Ainsi, s'attaquer réellement à ces causes profondes au lieu de s'attaquer à ces effets serait recommandé. Auquel cas, on tournerait toujours en rond par rapport à cette situation.
Monsieur Juvenal Twaibou, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. J'épouse l'idée de l'intervenant Mais malheureusement, il faut parler de dialogue, oui, mais quel type de dialogue? Et quels sont les acteurs, comme j'avais signé tantôt ici? Donc il faut choisir des opérateurs, des acteurs qui sont voués au changement. Il faut un dialogue de très franc, parce que toutes les communautés qui sont suivies, qui sont réunies dans le dialogue, jouent les hypocrisies. Donc ils ne jouent pas les francs, les francs-paroles. Donc c'est ça. S'il faut dire des dialogues, rentrer dans les anciennes causes, profondes comme elle l'a dit. Il faut, il faut remonter les lumières de toutes les crises qu'on a connues et parler en se regardant aux yeux comme ça. Et là, il faut. L'autre aspect, M. le journaliste, si on convoque des dialogues, il y a que des gens qui ont d'engouement d'aller percevoir des terriens, d'aller parler des questions pour la population qui l'a mandaté, ou bien qui les ont mandatés. Il faut qu'on voit des assises, on les amène à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à ouvrir dans les cocologies, mais sans rien parler comme concrètement comme cause. Et quelles sont les solutions qu'il faut adopter, ou bien raisonnablement parlant, retenir et mettre en pratique. Nous avons des actes d'engagement signés par des gens ici, dans le terroir ici. Mais est-ce qu'ils sont en application? Les gens qui doivent mettre en pratique l'engagement là, les gouverneurs et les consorts, mais ils ne les appliquent pas.
Juvenal Toibou.
Qui doit vulgariser ça? Mais ne vulgarise pas.
Juvenal Toibou.
Dans les dialogues. Et il faut une erreur de franc. Oui.
Oui, oui, vous prenez un dialogue franc entre les communautés et nous sommes à la fin de l'émission. Un mot en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, il faut que les communautés se parlent en toute franchise et cessent de soutenir des groupes armés. Il est clair que les communautés n'ont pas de groupes armés, mais soutiennent les groupes armés. Parce que quand on parle de l'impunité, il n'y a aucune communauté qui a déjà amené quelqu'un à la palais militaire qui est celui-ci, il est un barbare. Il nous a agacé, il faut
merci.
L'amener. Il est dans notre main, il faut l'amener à la justice.
Merci. Monsieur le gouverneur Théo Ngouabi-Jekassi, votre conclusion.
Oui, monsieur le journaliste, moi je l'ai dit, la conclusion aujourd'hui pour le retour de la paix au Sud-Kivu, c'est l'ensemble de notre pays, c'est l'éradication des groupes armés locaux et la neutralisation et surtout les retours des groupes armés étrangers chez eux. C'est ça la vraie solution. Et tous les efforts aujourd'hui, dialogue ou discussion qui peuvent venir demain, c'est la sensibilisation et puis nous passons à la neutralisation de ces forces négatives.
Merci.
C'est ça la vraie solution pour les Sud-Kivu. Et j'ai dit à la fin, la cohabitation pacifique pourra...
Merci, Karna Soro, votre conclusion.
Mais moi, je voudrais profiter pour lancer un appel à toutes ces personnes qui se réclament être chefs de ces groupes armés et leur dire qu'une opportunité leur est offerte de déposer ses armes, de profiter des protections qui leur seront faites par le gouvernement du Sud Kivu, en ce qui concerne la réintégration, mais tout en aussi attirant l'attention de tout un chacun qu'il sera tenu pour responsable des exactions commises.
Merci, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci.